Bonjour. C'est bon, vous nous entendez bien ? Est-ce que... Pas encore ? Même sans micro, de toute façon, peut-être qu'on entend quand même.
Allô ? Le micro est allumé là.
Ouais. C'est bon, ça y est ? Vous m'entendez ? Pas trop, trop. Je vais essayer de parler un peu fort pour pas que... Pas du tout. Il n'y a pas de micro, apparemment. 1, 2, 1, 2, bonjour.
Ah, ça y est.
On va dire que c'est bon aussi pour les autres.
Où est-ce qu'on teste ?
Test. C'est bon. Les tests micro sont faits, on peut y aller.
Ah, mais un micro en plus, je vais prendre le...
Donc bonjour à tous et toutes et bienvenue. Donc la rencontre d'aujourd'hui est autour donc de l'œuvre d'Iman Mersal, qui est donc une écrivaine égyptienne, donc née au Caire, née dans un petit village en fait d'ailleurs égyptien en 1966, qui fréquente assez rapidement la scène littéraire et poétique du Caire, une scène d'ailleurs marxiste. D'ailleurs dans un de ses recueils, il y a un petit poème qui est dédié à Marx. Elle a publié du coup aux éditions Actes Sud d'abord un recueil en fait de poèmes, donc des choses m'ont échappé, et ensuite qui a été donc traduit par Richard Jacquemont, qui a ensuite traduit Sur les traces d'Enaya Zayat, qui vient tout juste d'être publié aux éditions Actes Sud. Et c'est surtout du coup autour de cet ouvrage-là qu'il sera question aujourd'hui. Donc Richard Jacquemont du coup a traduit beaucoup d'auteurs égyptiens à la faveur d'un voyage en Égypte en fait. Il est tombé amoureux de la langue arabe et il a même traduit du coup son premier livre en arabe avant même d'être en fait licencié dans cette langue. Et en fait, il y a une relation un peu de complicité qui s'est tissée avec pas mal d'auteurs de la scène. De la scène littéraire égyptienne, et de fil en aiguille, voilà, il a traduit pas mal d'ouvrages, et notamment celui de l'auteur Sonala Ibrahim, dont il a traduit beaucoup d'ouvrages. Voilà. Il est aussi chercheur à l'Université d'Aix-en-Provence. Voilà. Donc, Sur les traces d'Enaya Zayat, donc ce livre-là, donc il sera beaucoup question, ce n'est pas vraiment un roman, ni même une biographie. C'est plutôt le récit très documenté d'une enquête sur Enaya Zayat, donc une écrivaine égyptienne qui est née en 1936 et morte d'un suicide à l'âge précoce de 27 ans. Dans ce récit, Iman Mersal, on vous voit errer, vagabonder dans des cimetières, dans des archives, dans des bibliothèques, dans les quartiers qu'elle a habités. On vous voit aussi converser avec les habitants des quartiers en question, avec les proches d'Enaya Zayat que vous avez retrouvés, comme l'actrice égyptienne Nadia Loufti, meilleure amie et sœur d'âme d'Enaya Zayat. Et au fil de ces errances, vous cherchez des explications à l'inexplicable. Et l'inexplicable, c'est la double disparition. Donc il y a à la fois la disparition de l'œuvre d'Enaya Zayat, des archives nationales, sa disparition de l'histoire de la littérature égyptienne. Et de l'autre côté, il y a la disparition d'une femme qui semble avoir beaucoup de choses pour être heureuse, mais qui souffre d'une dépression chronique et qui se donne la mort à 27 ans. Et j'aurais aimé du coup démarrer cette rencontre par une lecture, en fait, un extrait de Sur les traces d'Enaya Zayat qui résume assez bien en fait la démarche d'Iman Mersal sur les traces d'Enaya Zayat. Donc il y aura une première lecture en arabe et après je lirai du coup la traduction de Richard Jacquemont en français.
لقد واجهت في بحثي عن عنايات الزيات في أرشيف مجلات وجرائد عدة ألا يكون هناك أي مادة عنها، بما يعني أنها لم توجد بالنسبة لهذه الأرشيفات كي تحظى برقم ملف فيها. إنها من الأفراد الذين لا يراهم ولا يدركهم هذا الأرشيف المؤسسي أو ذاك. يبدو أن هذه هي نبوءتها عندما كتبت في يومياتها في خريف 1962: أنا لا أعني شيئا عند أحد، إذا ضعت أو وجدت سيان، وجودي كعدمي، أنا إن وجدت أو لم أوجد لن تهتز الدنيا، خطاي لا تترك أثرا وكأني أمشي على الماء، وجودي لا يراه أحد كأنني كائن غير مرئي.
Au cours de mes recherches sur Renaya Zayat, dans les archives de multiples journaux et revues, j'ai souvent été confrontée à l'absence de matériaux. Elle n'existe pas, pas même un numéro de dossier. Elle fait partie de la masse des individus que telle ou telle archive institutionnelle ne voit et ne saisit pas. Cela ressemble à ce qu'elle prédisait dans son journal à l'automne 1962. Je ne signifie rien pour personne. Que j'existe ou que je disparaisse revient au même. Que j'existe ou non ne changera rien au monde. Mes pas ne laissent aucune trace, comme si je marchais sur l'eau. Personne ne remarque mon existence, comme si j'étais un être invisible. Donc c'était un extrait du coup du journal de Naya Zayat. La première question est pour vous, du coup, Imane Mersal, et elle concerne la forme que vous avez donnée à cette enquête. À la fois parce que la vie de Naya Zayat ressemble à une tragédie grecque, comme le répètent souvent ses proches, à la fois aussi parce que malgré toutes les informations que vous avez récoltées, il y a beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de blancs, beaucoup de vides à remplir dans son histoire, et suffisamment de vides pour que l'imagination d'une poétesse comme vous puisse s'y déployer, on imagine. Et du coup, on se dit qu'il y a matière à un roman. Et alors du coup, la première question, c'est de savoir sur le chemin qui vous a mené vers ce récit. Est-ce qu'il a déjà été question pour vous de transformer Naya Zayat en personnage de fiction ou même d'écrire une biographie plus classique? Et qu'est-ce qui vous a fait écarter ces options-là?
All right. Good evening. What brought me to Zayat first is actually I was a young writer living in Cairo when I found I was searching for another book and I used book stand in old Cairo, and I found this novel written by a woman named Anayat Zayat, which would bring to Arab reader right away the great female writer Latifa Zayat, who was a figure in terms of activism against colonialism, and Shuruta, a novel was published in 1960, and I was a little bit like, who is Anayat Zayat? She must be relative to someone else, Latifa Zayat. I tried to figure out if I heard this name before. No, because she was not really presented in the canon of Arabic literature. After that, of course, I read the novel.
J'ai découvert en fait cette écrivaine, Inayat Zayat, quand j'étais moi-même une jeune écrivaine au Caire. Et en fait, c'était parce que je cherchais un autre livre. J'étais dans un stand de livres dans la vieille ville et je cherchais un livre de Latifa Zayat, qui est une autrice assez connue, qui était une activiste, qui notamment a beaucoup écrit sur la lutte contre le colonialisme. Et elle a écrit un roman en 1960. Donc je cherchais ce livre. Et à la place, je suis tombée donc, sur un livre sur lequel est écrit Inayat Zayat. Et je me suis demandé, tiens, qui est cette femme? J'en avais jamais entendu parler. Je me suis demandé si elle était de la même famille. Et je n'avais jamais entendu parler d'elle. Et c'est ça qui a éveillé ma curiosité.
So I think reading the novel was the first moment that I became so interested in here. Because as I said in the book, her novel really touched me in so many ways. If you know anything about Arabic literature, the famous female writers usually would write about colonialism, about the nation, so they would bring women issues with the national struggle. And this became, after Latifa Zayat novel, which was published in 1960, what expected from good female writers. And yet, novel, on the other hand, has a whispering voice, was talking about depression, insomnia, mourning. And I felt it speaks to me, so the question I started to ask the question, why did this novel was excluded from Arabic إذا كانوا of Arabic literature, who excluded it, who is this woman, and so on. But writing the book is different story because I started to write it 2014, not 1993. So which means that the novel had impact on me, and the question was important really to the point to go back and revisit it again after I became myself older than Anayat, maybe her mother by the time she killed herself.
Et donc ça c'était en 1993, donc j'ai lu le roman qu'elle avait écrit et j'ai été très intéressée par ce livre, et c'est un livre qui m'a beaucoup touchée de plein de manières différentes. En général, les autrices du canon de la littérature arabe, elles ont tendance à écrire sur le colonialisme ou bien sur les problématiques féminines dans leur lien avec la lutte nationaliste, et donc c'est comme ça qu'on a tendance à voir les bonnes femmes auteurs dans ces pays. Ce sont les femmes qui adressent ces thématiques-là, qui traitent ces thématiques-là. Et là, au contraire, je trouvais quelque chose de très différent. C'était une voix, c'était comme un chuchotement. C'était une voix qui parlait de dépression, qui parlait d'insomnie, qui parlait de deuil. Et ça m'a beaucoup parlé. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que cette femme a été exclue du canon de la littérature et qui était cette femme. Et donc, beaucoup de temps a passé, puisque je n'ai commencé à écrire ce livre qu'en 2014, alors que j'avais découvert cette autrice en 1993. Et donc, ce livre a vraiment eu un impact suffisamment long sur moi pour que je décide de revenir sur le livre, alors que j'avais moi-même vieilli et que j'étais devenue assez grand, assez vieille pour être la mère de Zayat au moment où elle s'est tuée.
Maybe the last part of your question about the genre. I think it takes time for a writer to know how to tell a story. Like, seriously, what we know and what we don't know could be one thing, but how to tell the story is a different thing. I was so worried to speak for her. I wanted her to remain an individual. And at the same time, there was a journey to search for her. And this journey was very important to me. I left Egypt 1998 to North America. My relation with the city changed a lot, and now I'm walking in the streets trying to trace someone who died 50 years before the moment I'm searching. Also, the question of the access to archive, also the question of censorship made by the family to keep her story, you know, from the public and so on. So I wanted to tell her a story, but I didn't know how. And this what brought me to this idea that I was touched by this person. I wanted to know her, but as soon as I started to know her, I find more gaps truth. Yani, I didn't want to introduce truth about here. And this is why I came up with the idea to tell the story of my journey searching for here. And this gave me the necessary room, really, to talk sometimes in academic voice and sometimes in storytelling voice, and sometimes also to bring my own journey and the questions about individuality to challenge here sometimes, or to let her challenge the individuality of 1990s in Egypt or now. So I think this the way the book was structured was really loyal to the journey of the research, and this was, I think, a good choice because it allowed me to understand what I'm doing, because I think I didn't know what I was doing until I started really to see this fragments fitting in their place. I'm sorry, I shouldn't. You are translating, so.
Pardon. Voilà, ça, c'est quelque chose de très long pour quand on écrit un livre, de savoir comment on va raconter une histoire, pour répondre donc à la deuxième partie de votre question. Il y a d'une part ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas sur le sujet qu'on veut traiter, et il y a ensuite comment est-ce qu'on va traiter ce sujet. Et moi, pour ma part, j'avais peur de prendre la parole à la place de Zayat et de me substituer à elle. Je voulais qu'elle garde son individualité. Et donc je suis partie dans tout un voyage, je me suis embarquée dans tout un voyage de recherche pour en savoir plus sur elle. Il faut savoir que j'avais quitté l'Égypte à l'époque, puisque j'ai quitté le pays en 1998 pour m'installer en Amérique du Nord. Ça rendait ce travail de recherche très difficile. Il a fallu que je revienne en Égypte et il a fallu que je retrouve la trace d'une femme qui était morte 50 ans plus tôt. Il y avait des problèmes liés à l'accès aux archives. Les archives étaient parfois difficiles d'accès. Il y avait aussi la censure de la famille qui voulait empêcher que ces histoires soient révélées au public. Et donc, c'était très problématique pour trouver ces informations. Et je ne savais pas comment donc raconter cette histoire. Et là, j'ai eu une idée. Je me suis dit que j'allais raconter l'histoire de ce parcours, ce voyage à sa recherche. Et donc c'était quelque chose qui me permettait de donner de l'espace pour parfois prendre une parole plus universitaire, plus académique, d'autres fois être plus dans le récit, dans la narration et presque le conte, d'autres fois pour parler de moi aussi et de mon trajet, de mon voyage, mon évolution. Ça me permettait aussi de parfois mettre en question cette femme et de la questionner elle-même. Ça me permettait aussi de mettre en scène l'Égypte dans les années 90 et notre regard actuel sur cette période-là en Égypte. Et donc c'est comme ça que la structure du livre m'est venue, en fait. Et j'ai voulu vraiment rester fidèle à ce voyage, à cette quête. Et je pense que c'était un bon choix finalement, parce qu'au départ je ne comprenais pas vraiment ce que je faisais en l'écrivant, et petit à petit je me suis mise à comprendre ce que j'étais en train de faire en voyant tous ces fragments qui se combinaient ensemble.
C'est vrai qu'il y a vos deux individualités qui ont toute la place dans cet ouvrage. Et comme vous venez de dire, il y a plusieurs genres en fait qui se croisent finalement dans ce livre, et aussi plusieurs voix. Donc en fait, il y a la voix donc d'Iman Mersal, comme on vient de le dire, il y a la voix de toutes les personnes qu'Iman Mersal a rencontrées, dont certaines sont rapportées donc au discours direct. Il y a aussi tous ces précieux passages où on entend directement la voix d'Enaya Zayat, telle qu'elle s'exprime dans les extraits de ses journaux intimes, et aussi dans les extraits de son unique roman, donc L'amour et le silence, qui n'a donc pas été publié de son vivant. Il a été publié donc à titre posthume 4 ans après sa mort. Et c'est une voix assez lyrique, assez poétique, assez introspective, très différente des autres voix. Alors ma deuxième question est pour vous, Richard Jacquemont. En fait, je me demande comment vous avez fait du coup pour naviguer entre ces différentes voix, et surtout comment vous avez fait pour restituer avec autant de précision le rythme et la musicalité de chacune de ces voix-là, et leur singularité aussi.
Franchement, j'en sais rien. Mais c'est tout le travail du traducteur, oui, c'est de saisir la voix qui s'exprime dans l'arabe et d'essayer de recréer une voix en français qui évoque pour moi d'abord, et donc après pour les lecteurs, mais qui entendront forcément autre chose que ce que moi j'ai mis dans cette voix-là, mais d'essayer de faire revivre cette voix dans une autre langue. Mais vous dire comment je fais, franchement, j'en suis
sachant qu'il y en a plusieurs,
incapable, en fait, sachant qu'il y en a plusieurs. La base, c'est la familiarité avec le travail de l'autrice, Iman Mersal, que je connais de longue date. C'est la familiarité avec le sujet parce que en dehors de mon activité de traducteur, j'ai une activité de chercheur en littérature arabe, et j'ai beaucoup navigué, creusé l'histoire de la littérature égyptienne. Et la question que se pose Iman dans ce livre, comment cette femme écrivaine de talent a disparu de l'histoire de la littérature arabe, c'est une question qui m'intéresse aussi. Pas seulement comme traducteur, mais comme chercheur, comme spécialiste. Et donc c'est à partir de ce travail aussi que j'ai pu rentrer dans ce livre qui m'a fasciné aussi.
C'est vrai qu'à toutes ces voix-là se rajoute aussi la vôtre, qui arrive très discrètement en bas de page, qui vient un peu préciser certaines choses, nous donner un peu les contours de la période historique en fait dans laquelle a vécu Enaya Zayat. Et du coup, c'est vrai que ça m'a interrogée sur votre méthode de recherche en fait, justement. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de derrière cette voix en fait de chercheur justement en fait. Et j'imagine qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours avec Imane Mersal, qu'il y a eu beaucoup de recherches de votre côté. Enfin, comment, quelle a été votre méthode justement?
Bien sûr, on a beaucoup travaillé ensemble. Et d'ailleurs, je dois dire à ce propos que c'est la première et j'espère la dernière traduction, c'est une traduction littéraire quand même, c'est pas un travail académique, mais où je me permets cette quantité de notes de bas de page. D'habitude, ma religion comme traducteur littéraire, c'est plutôt d'éviter au lecteur de devoir basculer en bas de la page pour avoir des explications, et plutôt de s'il y a des explications à donner, de faire de la paraphrase, hein, c'est-à-dire de rajouter dans la phrase deux mots qui une incise qui explique, plutôt que de renvoyer, d'obliger le lecteur à sauter en bas et à avoir ce travail de dictionnaire, quoi. Là non, là je me suis permis parce que effectivement il y a cette dimension de recherche qui est une vraie enquête, quoi. C'est une enquête au sens policier, hein, aussi. Elle cherche des traces sur les traces, hein, on est vraiment c'est l'inspecteur Imane Mersal là qui est, et moi derrière je suis mon cher Watson, quoi. Si vous voulez poursuivre la métaphore, je l'aide, je refais l'enquête avec elle à sa suite.
En ayant en tête, j'imagine nos lacunes, enfin vous adressez aux
en ayant à l'esprit le lecteur français, oui, qui bon, il y a beaucoup de noms propres, hein, forcément. On voit passer beaucoup de monde dans ce livre. Des écrivains, des hommes politiques, des personnalités de la culture égyptienne. Donc il fallait un petit peu aider le lecteur, c'est vrai, français.
Ouais. Mais c'est vrai que cette voie-là est très importante parce que ça nous aide un peu à comprendre les enjeux en fait, de l'époque. Et aussi, je pense que cette voie, un peu, voilà, ces informations-là que vous nous donnez, elles sont aussi importantes parce que j'ai l'impression que que l'histoire intime, entre guillemets, d'Imane Mersal, d'Enayat Zayat, désolé pour la confusion. En fait, elle est très imbriquée avec plein d'histoires différentes, notamment l'histoire de l'époque, qui est donc celle des années 50, qui est donc une décennie traversée par notamment une révolution en 1952, et que les protagonistes en fait, de l'histoire disent d'ailleurs que c'est une période de transition. Et il y a notamment une amie d'Enayat Zayat, Nadia Doufti, qui dit « On est les filles de la transition ». Et du coup, ma question pour Imane Mersal, c'est de quelle transition sont-elles les filles, justement, Enayat Zayat et Nadia Doufti et toutes les filles de cette génération-là?
Are you sure you want me to answer this question?
C'est trop long.
Est-ce que vous êtes sûre que vous voulez que je réponde à cette question?
Oui.
I think really 1952 army, you know, COP or revolution, whatever people will would call it, played very important role in a particular kind of progressive society in so many levels, in distributing land, for example, to farmers, in women education, in some improvement or changes in personal law or family law, custody, divorce, as it was, I touched on this because it's part of Enayat's story, and so on. So I think someone like Nadia Lutfi and Enayat Zayat were rather confused, actually. Nadia Lutfi can say whatever she wants. She was an iconic actress, beautiful, intellectual as well. For the readers, you might watch some of the Egyptian films like Saladin or what else? She played the protagonist of Najib Mahfouz, Zuba, in Solaseya. What's the Solaseya?
Trilogy.
Translated into French, I mean. Trilogy. Oh, trilogy, okay. So, I learned during writing this book that what people say is not what's true, but it doesn't mean that they are lying. Nadia Lutfi is talking about Enayat Zayat as an old close friend who committed suicide, or talking about Abdul Nasser era, you feel like people went, Nadia Lutfi went through lots of pain and she has to reconcile with it. I'm meeting here 50 years after whatever happened during Abdul Nasser or the death of Inayat. So she was trying to talk about the positive part of Nasser era, but actually she also revealed to me and to some other people, it turned out, her suffering during Abdul Nasser era. So they were the children or the daughters of the revolution, but they were hurt by the revolution as well. Is what I'm saying? Mm. Make sense? I don't know. So I feel it's so complicated. I had to say what she said and to think about it. But I didn't believe everything that it was that great during the revolution.
Je pense que la révolution de 1952, donc c'était une révolution qui a joué un rôle essentiel dans l'évolution politique et sociale du pays. Ça a conduit, par exemple, à une redistribution des terres aux paysans. Ça a beaucoup modifié l'éducation des femmes. Ça a permis de faire évoluer aussi les lois sur la famille, le divorce, la garde des enfants, et ainsi de suite. Et donc ça a été un moment charnière. Et ces deux personnages, ces deux femmes, ce sont des femmes qui sont un peu confuses par cette situation. Et le personnage de Nadia Lutfi, c'était une femme, une actrice qui est une actrice culte, qui était une femme très belle, une intellectuelle, qui a joué dans de nombreux films égyptiens essentiels de l'époque. Mais ce que j'ai appris en parlant avec elle, c'est que ce que les gens disent n'est pas toujours la vérité, mais que pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils mentent. Dans le cas de cette femme, donc Nadia Lutfi, elle se remémore le suicide d'une amie proche et de son amie, et elle se remémore la période de la Révolution. Mais évidemment, je lui parle 50 ans après ces événements-là. C'était des événements qui ont été très douloureux, avec lesquels elle a dû se réconcilier et se réaccoutumer. Donc, elle pouvait à la fois parler d'aspects très positifs des années Nasser et exprimer des choses très positives sur cette période. Mais ce qu'elle exprimait aussi, c'était sa souffrance. Et les souffrances qu'elle a connues pendant cette période-là. Donc ce sont deux filles de la Révolution qui à la fois ont aussi souffert de la Révolution. Et donc c'est toujours une réalité qui est très complexe. Et donc moi ce que j'essaye de faire, c'est de retranscrire ce qu'elle raconte sans pour autant croire tout ce qu'elle dit, mais en tout cas donner une place à cette parole.
D'accord. Merci.
Ouais, Je me permets de répondre un petit peu à la même question que vous avez posée à Iman sur l'ambiguïté, l'ambivalence, les contradictions de cette période et comment elle est vue aujourd'hui. Je vais vous raconter une anecdote pour essayer de faire passer ça. En 2012-2013, donc après la révolution égyptienne, les Égyptiens ont élu un président qui était issu des frères musulmans, qui a été au pouvoir pendant un an. Ça s'est très mal passé, ça a fini par un peu la même chose qu'en 2011 et en 1952, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois une révolution et un coup d'État, et on en est où on en est aujourd'hui. Mais bon, peu importe, ce qui m'intéresse, c'est à ce moment-là, en 2012, au moment où les frères musulmans étaient au pouvoir en Égypte, il y a une vidéo ancienne qui a beaucoup circulé sur YouTube. En Égypte et en France, il y a eu plein d'articles, toute une série d'articles de presse sur cette vidéo en France, c'est un discours de Nasser, c'est Nasser, on ne sait pas exactement quand, qui en 55, 56, comme ça, qui raconte à un public conquis, évidemment, l'anecdote suivante. Il raconte que le guide suprême des frères musulmans est venu le trouver pour lui dire... il faut que vous fassiez porter le voile à toutes les femmes du pays. Et pour faire court, Nasser lui répond, mais toi, tu as ta fille là, qui est en fac de médecine, qui n'est pas voilée. Toi, tu n'arrives pas à faire porter le voile à ta fille et tu voudrais que moi, je voile toutes les femmes du pays. Voilà. Et évidemment, l'assistance éclate de rire, une assistance exclusivement masculine, soit dit en passant. Mais je trouve cette anecdote assez parlante, dans ce sens qu'elle souligne la contradiction de cette époque, qui est qui se présente comme, qui est vue aujourd'hui, avec, vers laquelle les gens se tournent aujourd'hui en Égypte ou en Europe avec une certaine nostalgie, comme si c'était le bon temps de la modernisation où les femmes arabes s'habillaient comme les femmes européennes, etc. Et qu'après sont arrivées toutes ces catastrophes islamistes, etc. Et alors que, en fait, l'époque n'était pas une époque spécialement heureuse pour les femmes, même si c'est vrai que c'était aussi une époque de modernisation, comme le montre le parcours de Nadia Lutfi, l'actrice qui devient une star, etc. Et ce qui est formidable dans le livre d'Imane, c'est que son retour sur cette époque, c'est aussi une réflexion, une déconstruction de ce mythe de cette époque de modernisation heureuse qu'auraient été les années post-révolution, les années Nasser, qui sont vues avec une certaine nostalgie aujourd'hui.
Et c'est vrai qu'une autre particularité de cette époque-là, c'est que, ce qu'on voit en tout cas dans le livre, c'est qu'il y a vraiment une imbrication entre littérature et politique. C'est-à-dire qu'en fait, que ceux qui, à la fois ceux qui écrivent, ceux qui publient, ceux qui font publier, sont très proches de ceux qui décident politiquement. Que c'est vraiment les deux sont tellement liés que ça paraît improbable pour les éditeurs qu'il puisse y avoir un livre qui ne finisse pas par une fin heureuse, militante, politique. Et j'ai l'impression que c'est une des pistes que vous explorez, Imane Ersal, pour expliquer en fait justement le pourquoi de cette fameuse marginalisation d'Enaya Zayat dans la littérature arabe. Et du coup, moi, je me demande en fait pourquoi c'est à ce point inconcevable, à ce point inimaginable pour des éditeurs de cette époque-là qu'une auteure, qu'une écrivaine égyptienne puisse écrire une fin qui ne soit pas militante et politique.
Right. We were just discussing before, this afternoon, the history of publishing houses in our publishing industry in Egypt and how, when the revolution came, nationalized lots of small independent publishing houses. So they have a massive institution that publish and also create propaganda, in general. Like the state wants people to believe in 1, 2, 3. They made a list of things that they want people to believe in. And making books or publishing books or supporting culture will be in order to spread these ideas and make people believe in it. So, I can think about the ideological institutions of the state. Publication was one of them, an important one of them. And the radio and TV and journalism in general was part of this big project. So when you have this massive project for publication and you are translating a great writer from the state point of view, which actually included great literature, it's not bad literature, some of it, but they had a way of evaluating literature. If you are a man from the 60th generation, you have to write about the nation. You write, about the big burning issues that the nation is facing. And a great female writer like Latifa Zayat, for example, would have this association between women's journey in life and the nation liberation or modernity or independence from the West, or so you have here like a kind of platform. Anything will be out of it will be excluded. To exclude literature is not just a matter of politics, in my opinion. It's a matter of style, use of language as well. So as I said in Anayat's novel, she is a fragile persona, and she is writing her first novel. So, and she graduated from German school, so her concept and feeling of language is different. So you have a different a style that is not familiar here too. So politics and style together, I think, can exclude people this way. I know I talked like 5 minutes, but I need to say something else before I forgot. I just want to say that I'm not sure if we read the past because we have a question in the future, or reading the past make us articulate our questions about the present. So it's very confusing for me sometimes. But actually, when you go for a journey like this, you feel so many similarities. The idea of excluding individuals because they are different is very common today and yesterday and in the 50s and 60s. It takes different shapes, that's all. And I can talk about this later. Poor.
C'est drôle parce que cet après-midi, j'ai eu une conversation sur l'histoire, nous avons une conversation sur l'histoire des maisons d'édition en Égypte. Et vraiment, avec la révolution égyptienne, il y a eu une nationalisation des maisons d'édition. Donc il y avait tout un tas de petits éditeurs indépendants qui ont été rassemblés et qui sont devenus des énormes maisons d'édition qui avaient pour vocation de publier de la propagande. Donc l'État listait les points qu'il voulait transmettre à la population, les choses qu'on voulait que les gens croient. Et les livres donc avaient pour but de diffuser ces idées et de faire en sorte que les gens croient ces idées. Et donc ces institutions idéologiques, c'était l'édition, mais aussi la radio, la télévision, le journalisme, etc. Et il y avait des très bons écrivains qui écrivaient pour l'État. Parfois, certains étaient bons. Mais donc, il n'y avait qu'une seule manière dont on évaluait la littérature. Donc, quand on avait un homme qui écrivait, il fallait qu'il s'agisse de grandes questions très importantes. Quand on avait des femmes qui écrivaient, donc comme Latifa Zayat, il fallait que ce soit toujours un livre qui mette en parallèle la destinée d'une femme et sa libération individuelle avec la libération du pays, la libération nationale et la modernité. Donc, il y avait ces cadres très, très, très stricts. Et dès qu'on ne rentrait pas dans ce moule, on était exclu. Donc, dans le cas de Amirat Zayat, on avait une autrice qui, à la fois, ne rentrait pas dans ce moule politique, qui aussi avait un style qui ne rentrait pas dans ce moule, puisque c'était un premier roman qu'elle écrivait. Elle avait ce caractère assez vulnérable. Elle sortait d'une école allemande et donc elle avait une manière d'écrire qui n'était pas familière pour les gens. Et donc pour ces raisons à la fois politiques et stylistiques, elle a été exclue de la scène littéraire. Tout ça me fait penser à l'idée que je me demande si nous regardons le passé parce que nous avons des questions sur le présent, ou bien si c'est le fait de regarder le passé qui suscite en nous des questions sur notre présent. En tout cas, ce qui m'apparaît, c'est que finalement, la manière dont on a pu exclure et dont on exclut des individus qui sont différents, qui ne rentrent pas dans les cases, c'est quelque chose qui était très présent dans les années 50 et que je retrouve aussi aujourd'hui très, très présent.
C'est vrai que je vous rejoins beaucoup sur ce miroir en fait que nous offre en fait ce livre en fait par rapport à aujourd'hui, et c'est vrai que ce processus de marginalisation de certaines œuvres résonne beaucoup en fait avec ce qui se passe dans le paysage littéraire français de notre époque. On attend d'une certaine catégorie de personnes, particulièrement lorsqu'elles appartiennent à une certaine minorité, qu'elles s'expriment sur certains sujets et pas d'autres. Du coup, elles sont complètement inaudibles et invisibles sur d'autres sujets. Et ce qui fait du coup que, en fait, j'ai l'impression, même si vous vous moquez beaucoup, en fait, dans le livre, de ça, de cette la manière dont parfois on évalue une œuvre sur sa valeur politique en fait quoi. Enfin, pour vous ça va de soi que c'est pas la dimension politique ou sociale qui détermine la valeur d'une œuvre, mais c'est pourtant quand même un peu la manière dont on analyse les œuvres aujourd'hui, et particulièrement en fait voilà dans la littérature arabe, je pense que la manière dont elle est reçue du coup aujourd'hui, notamment en France, c'est très conditionné en fait par ce qui va se passer politiquement. Et si on revient du coup à une époque du coup plus récente, 2010-2011, c'était clairement assez compliqué d'entendre un artiste égyptien s'exprimer sur autre chose que la révolution à cette époque-là. Et du coup, ma première question est pour vous, Richard Jacquemont, parce que vous faites aussi la sociologie de la traduction, et vous intéressez du coup aussi à ces questions-là. En fait, qu'est-ce qui va conditionner la possibilité pour une œuvre d'être traduite ou pas? Et du coup, est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes déjà confronté, en fait? Est-ce quelque chose que vous avez observé aussi, la manière dont le contexte politique influence sur la possibilité d'une œuvre d'être reçue par une maison d'édition?
Oui, bon, après, je pense que c'est pas propre aux littératures arabes aujourd'hui. Je pense que c'est un peu une situation. Enfin, plus on regarde vers quelque chose qui est dans la périphérie et plus éloigné de nous, et plus c'est ce type de réception politisée, ethnographique, qui va prévaloir sur une lecture proprement littéraire. Mais ça n'empêche pas que. Moi, je reste assez optimiste et je continue de traduire des livres comme celui-ci, parce que je fais le pari qu'il parle à l'individu, au lecteur individu, parce que c'est une histoire individuelle. J'aime beaucoup la façon dont Iman a de parler de ce livre, et puis ou sa poésie aussi, puisqu'on parlera un petit peu de sa poésie, en mettant l'accent justement sur l'individu par opposition au collectif. Et tout son travail, là, c'est justement la recherche de faire ressurgir un individu une individu, en l'occurrence, comme elle, avec laquelle elle a une forme d'identification, d'ailleurs, par différents aspects, et de la faire réémerger après toutes ces années où elle a disparu. Et ce qui est magnifique, c'est que là où le lecteur que nous sommes, le lecteur étranger en l'occurrence que nous sommes, est comblé, c'est qu'on a les deux à la fois, parce qu'en montrant le combat de cet individu, cette femme vis-à-vis du collectif, nous on voit les deux, on voit aussi bien la société égyptienne qu'il a écrasée, qu'il a anéantie, l'État, le système culturel, l'édition, la justice, etc. Et on voit aussi l'individu, quoi. Donc on est les deux à la fois.
C'est vrai que par rapport à cette question de l'individu, en fait, j'ai l'impression que Iman Mersal, en fait, une des idées que vous défendez dans ce livre, c'est que pour contrer justement cette sélection arbitraire et un peu discriminante de l'histoire de la littérature, vous en appelez la responsabilité individuelle, en fait, justement, que c'est de notre responsabilité d'aller justement s'attarder sur certaines voies et peut-être les déterrer, les offrir aux autres. Et est-ce que, Richard Jacquemont, est-ce que c'était quelque chose qui est de cet ordre-là, en fait, quand vous choisissez un livre, en fait, que vous traduisez, est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la responsabilité, du devoir, en fait, ou quand que ce soit le livre d'Iman Mersal ou d'autres que vous avez traduit, est-ce que c'est ce sens-là du devoir personnel ou de la responsabilité personnelle qui rentre en compte dans votre choix?
Non, je crois pas. Je crois que c'est surtout, d'abord le coup de foudre pour une lecture qui fait que qu'on va traduire, enfin, en tout cas que moi je vais traduire ce livre. Dans les discussions autour de la traduction, on demande beaucoup aux traducteurs les règles. C'est quoi les règles pour bien traduire? Comment on choisit les livres qu'on traduit? Comment on choisit? Enfin, comme si traduire c'était autre chose que d'écrire, quoi. Comme s'il y avait il pouvait y avoir un système normatif comme ça qui vous dit en quoi consiste le bien traduire. Et moi, je dis que, en fait, la traduction, c'est une forme d'art et c'est une forme d'amour aussi. Et en art comme en amour, la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Et dans la traduction aussi, il n'y a pas de règle. D'abord dans le choix. Donc voilà, c'est un peu ma réponse.
Dans ce que vous dites, en fait, on retrouve un petit peu aussi l'itinéraire de... J'ai l'impression qu'on retrouve un peu la manière dont Iman Mersal s'est laissé, on va dire, choisi, entre guillemets, par Inaya Zayat. En fait, dans ce livre, vous parlez beaucoup de cette enquête comme d'un voyage, en fait. Et dans un voyage dont le guide serait Inaya Zayat. Et je voudrais du coup savoir si c'est, si c'est comme ça que vous l'avez vécu, comme ça que vous le vivez encore aujourd'hui, comme un voyage dont Inaya Zayat est le guide, quelque chose un peu, peut-être un peu mystique, un peu au-dessus de vous, en fait, qui vous a mené jusqu'à elle.
I really think when you ask a question about someone who you don't know, and when this question continues to live with you while you are going through like motherhood, PhD, migration, and so on, if some one person is has this impact through a novel, and through the moment that you read her novel. Do you know what I mean? Like, and this is what I emphasized in the book, that great literature is this literature really that can impact us and make us ask questions and change us, helps our internal journey toward knowing at least ourselves. And this is why I considered then that her novel is great literature for me, even if it's excluded from the canon of Arabic literature. So when you have this kind of, you know, when you can relate to someone that you don't know, it has, you have to allow inside you to some spiritual connection. Otherwise, you will feel like really you are crazy that you are writing about this woman that you don't know and putting this effort to get to know her and so on. There was something really spiritual, and it's so funny to be an atheist in one hand and waiting for a dead woman to send you, you know, anything to tell you what to do next, you know, on other hand. But I think we have room inside us to both. Both are actually, and we can't survive without this kind of mysticism, of feeling that we are connected to some dead people sometimes.
Il y a un passage du livre qui... Pardon.
Quand, je pense que quand on se met à... Le fait que je me sois retrouvée à me poser des questions sur cette femme que je ne connaissais pas, le fait que ce roman que j'ai lu il y a si longtemps ait continué à vivre en moi... après avoir fait mes études, ma thèse, avoir changé de pays, avoir migré, ainsi de suite, quand un roman a un impact aussi fort et vous fait poser des questions qui se poursuivent aussi longtemps, ça veut dire qu'il y a une connexion qui s'établit, il y a une connexion qui est là, qui existe, avec, et donc le fait que cela me soit arrivé, ça m'a forcé à admettre qu'il y avait une connexion spirituelle qui existait avec cette femme. Sinon, je me serais juste dit que j'étais folle. Pourquoi je me mettrais à écrire un livre sur quelqu'un que je ne connais pas ? Donc, je crois vraiment dans cette connexion. Je suis athée moi-même, mais j'en suis venue à croire que je pouvais avoir cette femme qui était morte et qui me parlait et qui me disait ce que j'allais écrire et ce que j'allais faire ensuite. Et donc, je pense que c'était important pour moi d'accorder un espace à cette espèce de mysticisme et à l'idée que j'avais cette connexion avec une personne qui me parlait depuis l'au-delà.
Finalement, en fait, j'ai l'impression que dans cette sororité entre guillemets qui s'est créée entre vous et Inaya Zayat, il y a un peu une sorte de filiation, cette filiation en fait qu'elle n'avait pas trouvée à l'époque, mm-hmm. l'a un petit peu trouvée à travers vous. Et il y a quelque chose qui est frappant en fait aussi dans votre livre, c'est qu'en fait effectivement Inaya Zayat n'avait pas de filiation en fait, n'avait pas de famille littéraire, elle était c'est un peu son originalité donc qui l'a un peu marginalisée, mm-hmm. et elle n'avait pas d'interaction ni avec une famille politique ni avec une famille littéraire, ce qui n'est pas votre cas en fait. Il y a un poème notamment dans le recueil des choses m'ont échappé qui parle en fait un peu de ça, qui parle un peu de cette famille politique avec laquelle vous avez grandi mais que vous avez quitté, et je me demandais en fait si est-ce que la poésie c'était aussi un, voilà, vous avez beaucoup parlé d'individualité, de subjectivité, est-ce que c'est un sort de chemin vers l'individualité qui vous a permis de rompre avec cette communauté que vous aviez en Égypte.
Yeah, I think poetry was a way out to, I mean, it was in the first place a reason to join this collective question. Because when you are interested in language and reading and writing and ideas in general, you would ask a question about, as a high school even a girl, I would ask a question about poverty, since I grew up in a village and we were not, you know, we were middle class, but not privileged people in so many ways. And you will have question about social class, or I remember, for example, listening to a sheikh, like an imam of a mosque, talking one night, and he was talking about God would accept all of us, will bring all of us to his mercy, blah blah blah, except blah blah blah. And an nafasa is a woman who died while giving birth, and my mother died while she was giving birth, just 2 years before. So I was traumatized just by hearing this. So when I think about my personal life, I feel you have sadness, you have questions, and this would bring you actually to the Communist Party or to a feminist organization or blah blah blah. You can have choices. You can keep silent and you will continue with these kind of forms forever and be the speaker for it. Or if you continue to ask questions, you might leave it. This is how I think about it, actually. So poetry was the reason of all of this. And I think about writing not as a result of something, but it's a process of living and understanding. I'm not sure if... Because sometimes I say things that I feel it's important, but it's not important. It's important for me, but I can't express it, so I'm not sure.
La poésie, la première chose, c'est que la poésie, c'était aussi une manière pour moi de rejoindre un collectif d'accéder à une question collective. Depuis toute petite, je m'intéressais à la lecture, au langage, aux idées. Et depuis toute petite aussi, je me posais des questions sur la pauvreté. J'ai grandi dans un village, j'ai grandi dans une famille de classe moyenne, mais très, très moyenne, pas du tout privilégiée. Et j'ai toujours eu des questions sur les classes sociales. Et je me rappelle un jour, j'ai entendu un imam, un prêcheur hein, qui parlait de Dieu et qui parlait de la manière dont Dieu acceptait tous les hommes, acceptait tout le monde dans son sein. Et il parlait et parmi ces... Alors là, j'ai eu un petit...
Sorry, I struggled about what the preacher...
Il a dit qu'il y a une catégorie de personnes qui n'accepteraient pas, qui étaient
les femmes qui sont mortes en couche.
Voilà.
Donc il disait qu'il accepterait toutes les catégories d'humains dans son sein. Il a listé toutes les catégories d'humains et la seule catégorie qui était exclue du salut, c'était les femmes mortes en couche. Et moi, ma mère
était... D'autres, mais parmi celles qui étaient exclues, il y avait
les femmes mortes en couche. Et ma mère était morte 2 ans plus tôt en donnant naissance à un bébé. Et donc ça a soulevé chez moi des questions, tout un tas de questions. Qui faisait que... c'était des situations comme celle-là qui faisaient que je commençais à me poser des questions et à vouloir en parler. Et l'option à ce moment-là, c'était soit de garder le silence et de garder toutes ces questions en moi, soit de poser ces questions et de m'exclure de ce groupe. Et donc pour moi, c'est ça aussi la poésie. C'est une manière de vivre et une manière de comprendre et de questionner les choses qui nous arrivent. Thank
you. Alors, je vais bientôt vous donner la parole. Je ne sais pas si vous avez quelques questions. Avant, j'ai peut-être une toute dernière question par rapport à la poésie, en fait, parce que c'est vrai que dans le livre, vous suggérez, en fait, vous avancez plusieurs pistes par rapport à le suicide d'Enaïa Zayat. Il y a la perte de la garde de son fils, il y a l'étiolement de l'amitié, il y a cet isolement, il y a plusieurs pistes, et cette dépression chronique contre laquelle elle se bat. Et en fait, vous avancez la théorie selon laquelle peut-être que si elle avait trouvé le chemin justement vers la poésie, ça aurait pu la sauver. Et du coup, je me demandais si c'est quelque chose auquel vous croyez.
I think it's my own fantasy because I really think that poetry saved me personally. So the year I read her novel, I was suicidal as well for other reasons. Maybe I mean maybe we shared some mental issue, but the idea that writing can save a life seems romantic. But if it saved your life, you believe in it. So it's not subjective, you know. Like I feel when you read her diary, and I think this was very clear in the translation. As you said, she is lyrical, and she is not lyrical in a romantic a female voice way during the 50s and 60s. It's in her own way. And maybe genre can kill somebody, like not discovering that there is prose poem that she can write, for example. So it's all my own fantasy of imagining her as finding way out, and she didn't find a way out. But I'm suggesting this kind of way out because this was my way out. Do you know what I mean? Like this is what helped me really to go through this darkness. As a young woman, was writing and was friendship, and was a relation with father, was things that she did not have during the moment she decided to take her own life.
Merci beaucoup.
Je pense que cette idée que la poésie aurait pu la sauver, c'est vraiment mon fantasme à moi avant tout, puisque moi-même, la poésie m'a sauvée. L'année où j'ai écrit ce roman, j'étais très déprimée, j'avais des pensées suicidaires, bon, pour différentes raisons, mais en tout cas, je me reconnais dans les problèmes de dépression dont elle souffrait. Et donc, je pense que l'idée que l'écriture peut vous sauver la vie, c'est une idée qui est très romantique, qui paraît comme ça très romantique, mais c'est vraiment quelque chose que je crois. Et quand on lit son journal, vous avez dit que que sa voix est très lyrique, mais elle a une manière d'être lyrique qui est très différente du lyrisme des femmes dans les années 50-60. Elle a vraiment sa propre voix, une manière très particulière de d'être lyrique et de s'exprimer. Et oui, en effet, je pense que la poésie aurait pu la sauver. Et je pense que finalement un genre littéraire peut vous tuer si vous n'y accédez pas. Mais évidemment, ça c'est mon fantasme. Et moi, j'imagine qu'elle aurait pu s'en sortir de la même manière dont moi je m'en suis sortie. C'est l'écriture qui m'a permis de me sortir de cette humeur très sombre. C'est l'écriture, c'est l'amitié, et c'est les choses qui manquaient à Zayat et qui ont fait qu'elle s'est tuée, selon moi.
Alors peut-être pour conclure cet échange avant de vous donner la parole, peut-être qu'on va lire un des deux poèmes, et plutôt qu'on va lire, je pense qu'on va lire un poème avant de vous donner la parole et un autre pour conclure. Donc peut-être le plus court pour commencer et le plus long pour finir après. Donc si vous avez des questions, préparez-les. La parole est à vous très bientôt.
Very short poem. الشر. كنت أظن أن هناك شرا كثيرا في العالم، فرغم أنني أكثر أصدقائي حنانا، لم أرى وردة على مائدة إلا وطحنت طرفها بين الإبهام والسبابة لأتأكد أنها ليست من البلاستيك. مؤخرا بدأت أشك في وجود الشر أصلا، كأن الأذى كله يكون قد حدث بالفعل في اللحظة التي نتأكد فيها أن الكائنات التي أدميناها كانت حقيقية.
المال.
المال. Je croyais qu'il y avait beaucoup de mal dans le monde, et bien que je sois la plus douce de mes amies, je ne pouvais voir une fleur sur une table sans en écraser l'extrémité entre le pouce et l'index, pour vérifier qu'elle n'était pas en plastique. Ces derniers temps, je me suis mise à douter de l'existence même du mal. Il me semble qu'en réalité, toute la douleur se produit à l'instant où l'on se rend compte que les êtres que l'on a fait saigner sont bien réels.
Merci. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions suite à ce long échange et ces quelques lectures, si vous posez des questions soit à Richard Jacquemont ou à Emmanuel Mersal. La parole est à vous. Madame,
est-ce que... Juste par rapport à une petite règle du jeu, c'est que les conditions sanitaires nous empêchent de passer le micro à travers la salle. Donc, merci de projeter la voix pour qu'il y ait une trace dans l'enregistrement.
All right. OK.
Je voulais savoir si vous continuez à vivre en Égypte ou si vous êtes aux États-Unis et éventuellement, si vous vous en sentez la liberté, nous dire quelques mots sur ce que vous pensez de la situation en Égypte actuellement. Et je trouve que j'y ai été beaucoup de fois et assez récemment et que voilà, ça m'intéresserait. Si vous vous sentez libre de le faire.
All right. I left Egypt 1998 to US and then Canada, so I live in Canada. But of course, I visit Egypt every year, and of course, I'm following the news. It's actually very easy for me to talk about my opinion about Egypt, but this will put me in a very weird position, the position of the representative of a country, a whole country of 100, you know, of millions, you know. And I'm really, I think writers should not be representatives of their, I refuse to be a representative of anything, even myself sometimes I don't want to be representative of it. This is in one hand. Second, it's not fair for also people who live in the country because they are different, they are diverse. And when I talk with the voice of intellectual, I'm making a statement about a whole politics. You know what I mean? So I would rather say that, like for example, literature is flourishing in Egypt at the moment, despite any whatever, yani, out there. If this makes sense. And in Arab world, actually, like, it's just good to see this beautiful novels, poetry, and nonfiction coming from different generations at the moment and from everywhere. There is no centers and peripheries anymore. You can find great book coming from what was not visible place to produce literature in Arabic until just 20 years ago or so.
J'ai quitté l'Égypte donc en 1998. J'ai vécu aux États-Unis et je vis actuellement au Canada, mais je retourne en Égypte tous les ans et je suis l'actualité du pays. Donc je pourrais très facilement vous parler de mon opinion, mais je suis dans une position très bizarre. Enfin, je n'aime pas du tout l'idée d'être représentative d'un pays et je ne crois pas que les écrivains doivent l'être, se sentir représentatifs. Moi, j'ai déjà du mal à me représenter moi-même. Alors, sans parler d'un pays de centaines de millions d'habitants, c'est très difficile pour moi. Et l'autre chose, c'est que, évidemment, les gens qui vivent dans ce pays sont très divers et que donc, ils ont les intellectuels ont des positions très diverses. Et donc, pour moi, c'est très problématique de m'exprimer au nom de qui que ce soit. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la littérature égyptienne actuellement est vraiment en très très bonne santé et qu'il y a des trucs formidables qui sortent malgré le contexte actuel. Et d'ailleurs, en Égypte et dans beaucoup de pays de langue arabe actuellement, c'est vraiment fascinant de voir tous les romans, la poésie, la non-fiction, tous ces des livres vraiment fantastiques qui sortent de plein de générations différentes, de plein de lieux différents, comme s'il n'y avait pas de frontières. Et ça, c'est vraiment quelque chose actuellement que je trouve très enthousiasmant.
Une autre question ?
The novel?
Yes.
No, the novel is not translated into any other language. The novel was not even available in Arabic until the week my book came out. And Zayat is not special in that. I think there are so many individuals who I might think about them as important for me, but they are not republished or present in this canon of literature. But Zayat novel itself was published 4 years after her death, but it was published 3 months before 1967 war. So it got some reaction from, you know, few readers or critics who wrote about it, saying, "Oh, it's a great novel." Yani they don't know much about the author, or they know that the author died from the short introduction in the novel, and that's it. So I think political also landscape played very important role because the defeat of 1967 changed the way even people were reading, and the books were published, by the way. So and also it took time for people to go back and talk about books or literature, really. So this played very important role in ignoring her novel. The novel was not published until November 2019, when my book came out 2019 as well. So it's available in Arabic and it's well read now. And you can see even in social media that some individuals, actually young people, became interested in other names, female writers who were writing during this era. So I see lots of posts about Alifa Rifat or other names, like they are not really read and their books are not available.
Non, les livres de Enayat Zayat ne sont pas traduits en français. En fait, ils sont à peine publiés en arabe, en fait, puisque ce roman dont je parle, il est sorti, il a été publié la même semaine, il a été réédité la même semaine où mon roman est sorti en 2019. Et en fait, ce qui est arrivé à cette autrice, ce n'est pas spécialement inhabituel. C'est quelque chose qui arrive à beaucoup d'autres écrivains qui sont importants pour moi. Donc son roman, il a été publié initialement 4 ans après sa mort. Et il se trouve que c'était juste avant le début de la guerre de 1967. Et donc il y a eu quelques journalistes, quelques personnes qui ont remarqué son roman et qui ont écrit un petit peu dessus, mais les événements de la défaite de 1967 a tout bouleversé, et ça a complètement changé la manière dont les gens lisaient, dont on publiait, et ça a mis beaucoup de temps après cette période-là pour que les gens se remettent à s'intéresser à la littérature, donc elle est un peu tombée dans l'oubli à ce moment-là. Et donc, comme je disais, le livre a été republié en novembre 2019. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux notamment qu'il y a beaucoup de... Enfin, je vois des jeunes qui recommencent à s'intéresser à des auteurs et à des autrices de cette période-là et de ces années-là. Et des textes qui, pour la plupart, ne se trouvent plus en librairie, ne sont plus édités.
Est-ce qu'il y aurait une dernière question avant la dernière lecture de l'Assemblée ?
Je ne l'ai pas lu parce que donc moi je ne vis plus en Égypte, je suis basé dans la région. Quand Iman a publié ça donc son livre à elle en novembre 2019, elle me l'a fait envoyer et je l'ai lu et je l'ai adoré et j'ai recommencé à le traduire. À ce moment-là, je ne savais même pas que le roman de Enayat Zayat avait été republié. C'est elle qui me l'a appris à ce moment-là. Et jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas lu en entier en arabe. Tout ce que j'en connais, c'est les extraits qui sont dans le livre d'Iman. Mm-hmm.
On est donc quelques-uns à être curieux de lire « L'amour et le silence » d'Enayat Zayat. Je pense qu'on va conclure cette rencontre et en rendant du coup hommage à cette fameuse poésie qui vous a sauvé. Donc on peut lire le dernier poème qui s'appelle « La fête » et qui donc est extrait de ce recueil qui s'appelle « Des choses m'ont échappé ». Et qui est donc issu, en fait, c'est une sélection, en fait, c'est une anthologie en fait qui... En fait, Richard Jacquemont, du coup, a choisi plusieurs poèmes de différents recueils, en fait, d'Iman Mersal. Et donc ce poème-là, qui s'appelle La fête, en est extrait.
Okay. All right. I just want to say that this poem was published 2008. So it's not after the Arab Spring. Seriously, it's not. So it means either I'm a prophet or something wrong happened in my...
ce poème, donc, il a été publié en 2008, donc il n'a pas été publié après le printemps arabe, mais avant. Voilà, donc vous allez peut-être penser que je suis une prophète, prophétesse.
Ok. Thank you. احتفال. وقع خيط القصة في الأرض فنزلت على ركبتي أبحث عنه. كان هناك ذلك الاحتفال الوطني. ولم أرى إلا الأحذية المستوردة والبيادات. على مقعد في قطار قالت لي أفغانية لم ترى أفغانستان الانتصار ممكن. تمنيت يومها لو سألتها هل هذه نبوءة؟ بدت تهتهتي بالفارسية كأنها خارجة من كتاب المبتدئين وهي كأنها تلتقطها من خزانة ملابس قتل صاحبها في حريق. لنفرض أن الشعب وصل عن بكرة أبيه إلى الميدان، أن الشعب ليس كلمة قبيحة، كما أن لا أحد يعرف ما معنى بكرة أبيه. إذن كيف حضرت كل هذه الكلاب البوليسية إلى هنا، ومن غطى وجوهها بأقنعة ملونة؟ الأهم من ذلك، أين سقط الخيط الذي يفصل بين الأعلام والملابس الداخلية؟ بين الأناشيد والنشيك، بين الله وكائناته التي تمشي على الأرض لتدفع الضرائب. الاحتفال، كأنني لم أنطق هذه الكلمة من قبل، كأنها خرجت لتوها من قاموس إغريقي، حيث رجع أهالي سبارتا منتصرين إلى سبارتا، ولم يجف دم الفرس على التوريس والرماح. ربما لم يكن هناك قطار ولا نبوءة ولا أفغانية جلست أمامي لساعتين. أن الله يضلل ذاكرة مخلوقاته من وقت لآخر ليتسلى، ولكن المؤكد أنني من موقعي هنا بين الأحذية والبيادات لن أعرف من بالضبط انتصر على من.
Une fête. Le fil de l'histoire est tombé par terre. Je me suis mise à genoux pour le chercher. Il y avait une de ces fêtes nationales. Et je n'ai vu que des chaussures importées et des Rangers. Dans un train, une Afghane qui n'avait jamais vu l'Afghanistan m'a dit « La victoire est possible ». J'aurais voulu lui demander si c'était une prophétie, mais les quelques mots de persan que je bredouillais avaient l'air de sortir d'un livre pour débutants. Et elle les attrapait comme dans une armoire à linge dont le propriétaire serait mort dans un incendie. Admettons que le peuple se soit rendu sur la place comme un seul homme, que le peuple ne soit pas un gros mot, et qu'on sache ce que signifie comme un seul homme. Dans ce cas, qu'est-ce que tous ces chiens policiers sont venus faire ici? Qui les a déguisés de ces masques multicolores? Et surtout, où est tombé le fil qui sépare les drapeaux des sous-vêtements, les hymnes des sanglots, Dieu de ces créatures qui marchent sur terre et payent des impôts? La fête. C'est comme si je n'avais jamais prononcé ce mot. Comme s'il sortait tout droit d'un dictionnaire grec où les Spartiates rentrent à Sparte victorieux, le sang des Perses encore humide sur leurs lances et leurs boucliers. Peut-être n'y avait-il ni train, ni prophétie, ni Afghane assise devant moi pendant 2 heures. Peut-être que Dieu s'amuse parfois à égarer la mémoire de ses créatures. Ce qui est certain, c'est que d'où je suis maintenant, entre les chaussures et les Rangers, je ne saurais pas qui, au juste, l'a emporté sur qui.
Thank you. Thank you. Ah, ça a fait naître quand même.
Merci beaucoup à nos invités tout d'abord, Inam, Richard. Merci à Lydie et merci à Valentine. Je voudrais juste vous signaler que c'est un impromptu, hein, mais nous avons actuellement, ça a été évoqué au passage, ici un groupe de traducteurs et chercheurs qui travaillent ensemble pendant une semaine et qui échangent sur leur recherche, leur traduction, leur méthode. Ce groupe est constitué de traducteurs de l'arabe vers différentes langues européennes. Ils sont 9 ici présents. Et ils vont aboutir leurs travaux vendredi. Et ce n'était pas vraiment prévu d'ouvrir ça au public. Mais on en a discuté avec une partie de l'équipe et c'est une opportunité que je saisis de vous dire que si vous voulez poursuivre un peu cette découverte, cette exploration des littératures arabes, vous êtes les bienvenus vendredi après-midi à cette restitution si vous en avez l'envie. Mm-hmm. Voilà. Ça marche plus, si. Voilà. Et puis la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que les deux livres dont il a été question ce soir sont en vente derrière vous et que vous pouvez bien sûr en profiter. Et encore, on me fait signe, pardon ? L'horaire vendredi. Je me tourne vers Jules. Est-ce que c'est 14h ? Oui, c'est ça, elle me fait ça. C'est 14h. Bonne soirée. À très vite.
Thank you very much. I know I gave you a hard time. Yes.